Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série « Foi et turbulence ». Au microphone, c'est Francine Robert. Aujourd'hui, en studio, j'ai deux personnes avec moi. L'une est Madame Caroline Demazur de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Elle est théologienne et doyenne de la Faculté des sciences humaines et de la philosophie à l'Université Saint-Paul. L'autre personne, c'est ma collègue Hélène Champagne, qui est professeure à l'Institut de pastoral. Elles sont deux parce que nous abordons un thème difficile aujourd'hui. C'est le thème des abus sexuels dans l'Église. C'est une réalité qui, au minimum, nous embarrasse, tout le monde. Et c'est aussi une réalité qui, probablement pour certains, certaines d'entre vous, est une source de souffrance, c'est un thème douloureux. D'autres sont peut-être en colère ou scandalisés face à cette réalité. Il reste que c'est une réalité incontournable et on peut pas faire comme si elle n'existait pas, ni refuser d'y réfléchir. On a besoin, je dirais, de se faire une tête là-dessus. Et Madame Demazur travaille depuis plusieurs années sur ces questions complexes, délicates. Et d'ailleurs, elle vient tout juste de donner un cours sur ce thème à l'Institut de pastoral. Elle nous présentera sa réflexion avec les repères théologiques et pastoraux qu'elle a développés, aussi bien dans la dimension individuelle de cette expérience, les causes, les conséquences, mais aussi du côté des communautés chrétiennes, hein, les enjeux, les défis que ça nous pose quand ça devient public, et aussi au plan de l'institution ecclésiale elle-même, son organisation, ses structures de pouvoir, comment ça peut avoir un rapport avec cette situation qui est tellement complexe et pénible. C'est ma collègue Hélène Champagne, qui est professeure donc à l'Institut pastoral, qui a accepté d'animer l'entrevue puisqu'elle a collaboré déjà à quelques reprises avec Madame Demazur, entre autres dans le cadre de congrès organisés par la chaire sur la famille chrétienne. C'est une chaire de l'Université Saint-Paul soutenue par les sœurs de Notre-Dame de la Croix et dont Madame Demazur est titulaire. Alors, vous voyez qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Et je suis certaine qu'elle nous aidera à réfléchir et peut-être à développer un regard critique et mieux informé face à cette question.
Ça me fait plaisir de vous rencontrer de nouveau, Caroline. J'ai eu la chance de vous entendre en particulier à un congrès qui a eu lieu il y a 2 ans à Amsterdam. Vous aviez fait une présentation justement sur ce sujet. On parle d'abus sexuels en milieu ecclésial et je pense que c'est vraiment ce qui m'a interpellée. J'avais besoin que votre parole soit plus entendue chez nous et puis en particulier peut-être avec nos auditeurs à Radio Ville-Marie. Peut-être dans une première étape, ça vaudrait la peine de clarifier de quoi on parle. Hein? Il est question d'abus sexuels en milieu ecclésial. Pourriez-vous nous éclairer là-dessus?
Il y a différentes façons de définir le terme abus sexuel. Il y a des gens qui veulent le définir très étroitement ou très largement. Donc avant, par exemple, dans le canon de le code ecclésiastique, on peut dire, il y avait une définition très étroite, c'est-à-dire on ne parlait que d'abus sexuel s'il s'agissait de pénétration. Il y a d'autres définitions que même si on fait une expression sexiste qui disent voilà, c'est l'abus sexuel. Mon point de vue, c'est un peu entre les deux. Il y a beaucoup plus d'abus sexuels que seulement la pénétration. On peut vraiment, si on touche quelqu'un d'une façon inappropriée, on parle d'abus sexuel. Mais je vais quand même aussi aller plus loin, parce que aussi la menace d'abus sexuel est l'abus sexuel. Et vous pouvez me poser la question pourquoi. Ben, si on a un enfant, par exemple, et on l'a abusé une seule fois, et puis après on menace. Donc, chaque fois qu'on menace, cet enfant vit de nouveau cet abus sexuel. Pas seulement parce que c'est comme un film dans sa tête, mais aussi le menace incite cet événement traumatique et ça fait que le trauma devient encore beaucoup plus grave. Dans ce sens, on dit aussi que le menace d'abus sexuel, c'est une forme d'abus sexuel. Mais donc, abus sexuel, ça peut se faire donc par les paroles, mais pas une simple expression quelque part, à un bar, mais vraiment une menace d'abuser, c'est le toucher. Et c'est aussi d'autres formes qui n'impliquent pas le toucher. Par exemple, si on force un enfant de regarder un film pornographique, ça aussi, c'est l'abus sexuel. S'il doit regarder, par exemple, quelqu'un qui fait la masturbation, c'est... Donc, en effet, on peut dire toutes les attitudes que nous savons très bien que c'est inapproprié. Mmh. À partir de là, on peut parler d'abus sexuel.
Mmh. Et quelle différence ou qu'est-ce qu'il y a de particulier quand il s'agit d'un contexte ecclésial? Il me semble que ça complique la situation, ça la rend encore plus dramatique.
Oui, il y a donc une grande différence quand on parle d'abus sexuels entre l'abus intrafamilial et l'abus extrafamilial. L'abus intrafamilial, c'est dans la maison et dans un certain sens, c'est l'abus le pire. Parce que si c'est le père, par exemple, qui fait un abus sexuel, l'enfant n'a même pas de chambre pour aller se protéger, pour se cacher. Il n'y a plus rien qui lui reste. Donc, l'inceste par le père est vraiment une forme d'abus sexuel très, très grave. Mais on pourrait dire que la deuxième forme qui est grave, et je ne veux pas dire que les autres formes ne sont pas graves, bien sûr, mais c'est si ça se passe à l'intérieur de l'Église ou si on dit que c'est une personne qui a une certaine autorité dans l'Église, clergé, religieux, parce que cette personne-là fait référence à Dieu, donc à quelque chose de transcendant. Donc, c'est pas seulement qu'on abuse l'enfant, mais on nuit en effet à ce qu'il est le plus profond dans l'être humain, c'est-à-dire sa spiritualité, sa religion. Et c'est ça qui rend l'affaire, l'abus, qui est grave dans tous les cas, mais encore plus grave.
Est-ce qu'il y a un profil particulier d'enfant? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont plus susceptibles d'être victimes de situations semblables? Ou qu'est-ce qu'on pourrait dire qui pourrait nous éclairer sur ces personnes?
Oui, un enfant, par exemple, qui est très isolé est plus sensible à devenir victime parce qu'il n'y a pas de contrôle social et il n'est pas protégé par ses amis ni par ses parents. Et il faut dire que les vrais pédophiles, et on va faire une différence un peu plus tard, mais les vrais pédophiles ont vraiment un nez pour trouver ces enfants-là. Et parce qu'ils ont ce nez, cet enfant risque d'être abusé plusieurs fois par plusieurs pédophiles, parce qu'ils ont le nez de trouver ces enfants-là. Je pense par exemple à un cas de quelqu'un qui est à la maison, il est très intelligent, mais ses parents sont des ouvriers et il est comme trop grand pour sa maison. Et donc, il ne se sent pas vraiment à l'aise et il connaît quelqu'un qui est culturellement très développé et qui l'a trouvé et qui fait des bonnes choses avec lui, disons aller aux expositions, lui donner des livres qu'il aime, mais en même temps, le prix de cette attention, c'est l'abus. Et l'enfant, il le sait, mais il est prêt à payer ce prix. Mais évidemment, plus tard, ils se sont traumatisés parce qu'il n'est pas capable de faire ce jugement à cet âge-là. Mais quand, à un certain moment, un autre pédophile voit ce même enfant, il voit ce même besoin. Et donc, puisque cet enfant est abusé plusieurs fois par plusieurs personnes, il se sent coupable. Parce que si c'est qu'une seule fois, il pourrait encore penser que c'est l'autre. Mais si c'est plusieurs fois, il se sent coupable lui-même. Il pense que c'est lui qui a donné lieu à cet abus. Donc l'isolement, c'est un facteur très important.
Parfois, à tort, on va dire, mais les enfants ne souffrent pas, les enfants ne ressentent pas les choses de la même façon. Je crois que c'est une erreur. Mais pour avoir travaillé en pédiatrie, en pastorale quelque temps, on disait les enfants en très bas âge, même à 2 ans, 3 ans, ils ont cette intuition, ils ont cette perception qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas se passer, comme un sens moral inné. Comment vous réagissez
oui,
à ça?
Oui, mais c'est aussi parce que l'autre lui dit de ne pas parler de cela. quand on vous défend de dire quelque chose, on dit c'est notre secret, il faut parler à personne, tout de suite on sent que c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Mais de l'autre côté, par exemple, un inceste qui se fait d'une façon très régulière, c'est comme le comportement devient normal. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, ce n'est que beaucoup plus tard que l'enfant peut se réaliser que ce n'est pas normal du tout. Et donc, dans ce sens-là, on ne peut pas... Moi, je ne crois pas que c'est inné. Je pense que c'est l'attitude de secret, de se cacher, des menaces qui sont souvent... Où tu reçois beaucoup trop de cadeaux. Ce n'est pas normal. Tes frères et tes sœurs ne les reçoivent pas. Donc, ce cas-là, on voit que ce n'est pas normal. C'est pourtant, je comprends que vous avez connu les enfants et qui ont beaucoup souffert de cela. C'est néanmoins vrai qu'il y a une partie, on pense peut-être 30% qui n'en souffrent pas beaucoup. Dans le sens que, évidemment, ils souffrent, mais ils ne sont pas traumatisés dans le sens psychologique du mot. Mais quand nous avons évidemment affaire avec des gens qui ont été abusés, évidemment, ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Mais donc, quand on fait des recherches sur un niveau très, très large, il y en a comme, même comme 30% qui disent qu'ils ont pu mettre ça à sa place. Évidemment, il y a surtout du côté féministe, il y a la réaction sur ce chiffre-là, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais typiquement pour un trauma, c'est que d'un moment, on nie le fait qu'on est traumatisé et ce qui s'est passé, et l'autre moment, on est dans la dépression ou on souffre beaucoup, et il y a donc des chercheurs qui pensent que le 30%, c'est parce qu'on a touché les gens à un moment où ils sont en effet dans le déni.
D'accord.
Mais c'est donc difficile et je connais aussi quelqu'un, comme j'ai quand même beaucoup fait l'accompagnement, qui a dit qu'il se sentait presque coupable qu'il n'avait pas les caractéristiques ou les symptômes d'un trauma. Il dit, moi j'ai pu placer ça, j'ai compté ce que j'ai reçu, j'ai compté ce que je devais payer, je n'aime pas du tout, c'est incorrect, il ne faut pas le faire, mais moi je n'ai pas beaucoup souffert de cela dans ma vie. Ou bien il est dans le déni, ou bien c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui réussissent à mettre ça, donner ça une place, disons, dans leur récit de vie. Cependant, chaque victime est une victime de trop. Mm-hmm. Donc même s'il n'y en a que 5 sur 100 qui souffriraient, c'est trop. Mais il y en a beaucoup plus qui souffrent.
Et quel serait le profil des abuseurs? Dans le fond, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, un jour, se met à commettre des actes aussi atroces?
Oui, il faut faire une très grande différence entre ce qu'on appelle les pédophiles fixés et les agresseurs régressés. Donc, les pédophiles fixés, en effet, on pourrait dire que c'est comme presque un... Si c'est inné ou quoi, on ne le sait pas, mais ils sont attirés vers des enfants qui sont très, très jeunes. Les pédophiles fixés, c'est presque impossible de les guérir. Ils prennent des enfants qui sont nettement en dessous de 10 ans, de 2 ou 3 ans. Ils savent jouer avec les enfants. Et on les trouve, par exemple, dans les crèches ou dans les lieux où il y a de si petits enfants. Tandis que les agresseurs régressés sont en effet des agresseurs qui ont eu des relations sexuelles avec des adultes. Ils sont régressés, ça veut dire ils vont de nouveau à une étape plus basse et ils cherchent quelqu'un qui peut leur satisfaire sur le plan sexuel. C'est ici que se trouvent les incestueux. Et il y a une grande différence aussi des victimes des deux, parce que quelqu'un qui commet l'abus sexuel dans le contexte d'une famille, le père par exemple, donc l'inceste, souvent sont les filles beaucoup plus que les garçons. C'est pas exclu les garçons, mais c'est beaucoup plus les filles, et l'abus dure aussi beaucoup plus longtemps. Tandis qu'un pédophile fixé, il prend des enfants très très jeunes et ce sont plutôt des garçons et non pas des filles. Il y a une troisième catégorie, il y en a plus, mais bon, arrêtons à trois catégories, et c'est ce qu'on appelle les éphébophiles. Et en effet, la plus grande partie des prêtres se trouve dans la catégorie des éphébophiles. Éphébophile, ça vient de éphébos, c'est le mot grec et ça veut dire jeune garçon. Et là, c'est entre 10 et 13 ans, 14 ans. Donc, en effet, c'est juste avant qu'ils deviennent hommes, on pourrait dire. C'est juste avant qu'ils ont la barbe et tout ça. Ce sont des pédérastes. En effet, c'est ce groupe. Et vous connaissez sans doute toute la discussion sur est-ce qu'il y a un lien entre l'homosexualité et la pédophilie. Vous savez que le Vatican est beaucoup intervenu dans les séminaires dans les États-Unis parce qu'ils veulent éviter que ça soit des homosexuels. Évidemment, pédophilie et homosexualité, c'est pas du tout la même chose. Et un pédophile qui s'agresse à des enfants de 2 ans n'est pas un homosexuel. Cependant, il y a un groupe qui se rapproche très fort. Et ce sont dans les éphébophiles, mais pas tous les éphébophiles, mais j'en connais aussi, qu'ils ont commencé une relation sexuelle avec un garçon de 14 ans et qu'ils ont continué cette relation, même si cet enfant, ce jeune homme est devenu adulte. Donc, s'il y a un lien, mais les recherches sont vraiment dans un début, c'est pour ce groupe-là. Mais donc, tous les homosexuels ne s'agressent pas à des jeunes garçons. De toute façon, pas aux enfants de 2 ans. Parce que si on ne se sent pas attiré par un enfant de 2 ans, on ne va jamais commettre l'abus avec cela. Mais c'est l'autre groupe qui pourrait être un groupe difficile. Cependant, il faut dire que pour l'abus sexuel des prêtres, la diagnose de pédophilie et d'éphébophilie ensemble dans la grande recherche de John Jay Institute aux États-Unis, ça n'explique que 14% des abus sexuels par les prêtres. Alors pour moi, la très grande question, quoi avec l'autre pourcentage? Si ce n'est pas une pathologie, alors c'est quoi?
Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Et donc, jusqu'à maintenant, l'Église elle-même n'a pas adressé cette question. Il reste beaucoup dans l'explication de pédophilie. C'est une pathologie, il faut les envoyer, ces gens, à une thérapie, c'est vrai. Et pour les vraies pédophilies, c'est même très difficile parce qu'il y a pas mal de thérapies qui disent « no cure but control ». Ça veut dire on ne peut pas les changer comme si, par exemple, vous êtes hétérosexuel, je ne peux pas faire de vous une pédophile. Donc, on dit que c'est comme une sorte d'orientation, on pourrait dire, si ce sont des pédophiles qui agressent des enfants de très jeune âge. Et là, ce sont les plus difficiles à traiter. Cependant, les éphébophiles, il y a plus de succès dans le traitement. Mais avec ces deux-là, on arrive qu'à 14% des explications. Ou bien ils n'ont pas bien fait leur diagnose, c'est une possibilité, ou bien il faut chercher ailleurs pour trouver des causes.
Mmh. Donc vous nous avez fait un portrait d'ensemble assez détaillé, assez éclairant. Je trouve ça très éclairant ce que vous nous avez dit. On va prendre quelques secondes de pause et puis on va reprendre tout de suite après.
Vous écoutez Foi et Turbulence.
Caroline Champagne, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains. Et je suis avec Carlène Demazure, professeure à l'Université Saint-Paul en théologie et spécialiste des questions d'abus sexuels, en particulier en Église. Le professeur Demazure a siégé à la commission Adriansen qui a traité des abus sexuels en Belgique il y a déjà 2 ans, je crois. On a terminé tout à l'heure avec l'observation que, au niveau des abus en Église, il y a toute une portion de prêtres abuseurs dont on ne connaît pas les raisons, les causes de leur attitude, de leur comportement, si j'ai bien compris.
Oui, donc on peut dire que dans les recherches, on est au début de trouver les causes aussi pour l'inceste et tout ça. Il faut toujours dire que ce sont plusieurs choses qui viennent ensemble, plusieurs causes ou plusieurs circonstances qui viennent ensemble. Par exemple, si on regarde les statistiques, on voit quand même que la plupart des abus ont eu lieu dans les années 70. Et qu'une fois qu'on est dans les années 2000, ça diminue beaucoup. Vous pouvez éventuellement me dire qu'il y a beaucoup moins de prêtres, c'est un fait. Mais même malgré ça, on voit quand même que c'est dans un certain contexte de société où il y avait la réaction contre la sexualité qui était très rigide avant, une vision négative. Et puis, on est tombé dans une liberté très, très grande. Mais pour moi, je trouve toujours, c'est pas parce qu'on dit que ça se fait dans la société qu'il ne faut plus penser au milieu spécifique. Il faut dire, par exemple, pour l'inceste, mais qu'est-ce que dans la famille donne lieu à cet abus? Et pour l'Église, il faut oser poser la même question. Où sont les causes à l'intérieur de l'Église? Même si ça se passe plus dans les familles que dans les églises, il faut oser poser cette question. Bon, je pense que c'est un peu toute la structure et la culture ecclésiale qui a joué un rôle dans cela. Une première remarque est que il y a beaucoup plus de prêtres diocésains qui ont abusé que des membres qui appartiennent à des congrégations. Bien qu'on a beaucoup de congrégations qui ont le charisme de soigner les enfants. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'il y a peut-être une cause là? Et on a pensé que l'isolement de beaucoup de prêtres diocésains pourrait jouer un rôle. Il y en a qui ont agressé des enfants, il y en a qui ont beaucoup bu, il y en a donc, mais on voit ça parce qu'ils sont seuls ou dans un tout petit groupe. Et on pense que le fait qu'ils sont tellement seuls, que ça peut être une des raisons pourquoi ils se sont adressés aux enfants. L'autre question qui est très, très délicate, c'est la question du célibat. Personnellement, je pense que, non pas pour les pédophiles fixés, mais pour les éphébophiles et même les autres formes d'abus sexuels sur des gens qui ne sont pas des enfants, ça a un lien avec le célibat. Ça peut avoir un lien avec le célibat si le célibat n'est pas vécu d'une façon profonde et convaincue. Il y a beaucoup de célibataires qui vivent, ou des prêtres célibataires qui vivent leur vie comme il faut et qui vont jamais agresser des enfants. Cependant, surtout aussi dans les années 70, je connais très bien la situation en Belgique, même au séminaire, on disait que cette situation de célibat n'allait pas continuer. C'était après le Vatican II. Là, on était très déçus parce qu'on avait espéré que Vatican II allait abolir l'obligation de célibat. Alors, ce célibat, beaucoup de gens ne sont pas matures dans leur vécu du célibat. Et ils agressent des adultes, des enfants. Et disons, ils agressent ceux à qui ils ont accès.
Il y a même des gens qui vont poser la question, est-ce que le célibat est vraiment possible? Est-ce que vous pensez qu'un célibat sain, bien vécu, est possible?
Je pense que oui. Il y a des gens aussi qui n'appartiennent pas à la prêtrise et qui vivent une vie célibataire. C'est possible. Il s'agit maintenant du lien entre le clergé diocésain et le célibat. Si ce lien est nécessaire, ce lien est beaucoup discuté dans notre temps. Et je ne vais pas ici donner la réponse, mais il y a pas mal d'écrivains ou d'auteurs plutôt qui pensent qu'il pourrait être un lien entre ce célibat obligatoire et l'abus sexuel, non pas des tout petits enfants, mais des jeunes, femmes ou garçons. L'autre, évidemment, c'est la structure de pouvoir. Parce que je ne veux pas qu'on réduise l'abus sexuel au pouvoir. On voit ça souvent. Et c'est parce qu'on n'ose pas parler de la sexualité. Et surtout dans l'Église, on parle aussi beaucoup du pouvoir. Et c'est vrai que l'abus sexuel, c'est un abus de pouvoir. Et les prêtres avaient beaucoup de pouvoir. Et dans ce sens-là, ils imposaient aux jeunes de leur donner la gratification sexuelle. Ils avaient ce pouvoir de faire ça. Si quelqu'un d'autre l'avait fait, l'enfant se serait enfoui. Se serait enfoui, merci. Mais pour un prêtre, on ne faisait pas ça. Et une fois que l'abus était fait, l'enfant n'osait même pas le dire à la maison. Ce n'est pas correct de dire que c'est seulement un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir peut se faire de beaucoup de façon différente. Je peux vous abuser de mon pouvoir en tant que doyenne de beaucoup de façons sans être sexuelle. Le fait que ça se fait sur le plan sexuel, ce n'est pas un hasard. Ça a quelque chose à faire avec le désir sexuel des êtres humains. Et le désir sexuel, c'est un désir très très fort. On risque d'oublier ça. Mais c'est un désir pour beaucoup de gens qui oublient les limites, les frontières, une fois que le désir est très sensible, disons. Donc, je vois là, on dit que l'isolement, le célibat et les structures de pouvoir sont trois éléments importants qui appartiennent à une culture de cléricalisme. C'est comme ça qu'on le trouve dans la littérature.
Et comment on peut expliquer la réaction de l'Église qui nous apparaît parfois, en tout cas dans les médias, comme un peu une réaction d'autruche ou une réaction de déni ou une réaction de garder le silence à tout prix? Ou j'ai du mal à comprendre cette réaction.
Oui, je pense qu'ils ont fait tout un chemin quand même. Mais vous avez tout à fait raison, au début, ça a été le déni total. Et ils ont choisi, consciemment ou inconsciemment, de protéger l'institution et de ne pas écouter les victimes. C'est une attitude qu'on trouve un peu dans toute l'Église. On choisit toujours le pardon pour l'offenseur et on n'a jamais fait beaucoup d'attention pour les victimes. On allait à la confession ou dans une conversation et on pardonnait, mais on oubliait de dire « oui, mais cette victime-là, qu'est-ce que vous avez fait pour cette victime ?» Ça a été la même chose pour l'abus sexuel. La victime ne jouait aucun rôle et on avait tellement peur que l'Église serait non pas détruite, mais qu'elle aurait quand même eu beaucoup de dégâts, qu'il y aurait beaucoup de dégâts à l'institution. Et c'est pour ça qu'on a essayé de garder le silence. On a choisi de protéger le principe de pas de scandale, parce qu'on ne peut pas faire le scandale pour les croyants. Cependant, ils se sont tus. Et ça a fait un plus grand scandale encore. Deux scandales.
Est-ce qu'on peut comparer ça aux familles, par exemple, où la mère serait au courant de l'inceste et ne voudrait pas parler par peur de briser la famille ou...
Oui, j'ai un collègue de la commission Adriansens qui disait toujours que l'Église a pris le rôle de la mère. Et on dit aussi la mère Église.
Ah oui.
Et qu'elle a choisi pour protéger le tout. Seulement, si c'est quand même connu à un certain moment, c'est deux fois un scandale. Mais il faut quand même dire avec Benoît XVI que beaucoup, notre pape donc, que beaucoup a changé. Lui, il a en effet, et même s'il était encore dans la congrégation de la doctrine de la foi, c'est lui qui a quand même beaucoup insisté de faire quelque chose pour cela. Le pape président a plutôt choisi pour protéger l'institution. C'est le pape Benoît XVI qui a dit non, il faut vraiment mettre fin à cela et qui a dit il faut briser le silence. Comme peut-être dans les familles, à un certain moment, il y a quelqu'un qui dit « Non, c'est trop grave, il faut qu'on parle. »
Et est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été prises pour changer les causes, pour ajuster les... Enfin, j'espère qu'à un moment donné, on en arrive là.
Ben, les causes, là, pour les causes, moi je connais que le fait qu'on veut contrôler le nombre des homosexuels dans les séminaires dans les États-Unis, mais ça va pas changer la chose. Hein. Il faut que les structures de pouvoir changent. Et que je sais que le pape a dit que ce sont aussi les croyants qui ont mis les prêtres sur un piédestal. Mais c'est quand même aussi, c'est toute la doctrine autour de la prêtrise qui devrait changer. On les met tellement de côté, et le célibat c'est un élément qui fait ça, on les met de côté, ils sont sacrés, on peut pas les toucher, ils sont pas comme les autres. Et voilà, c'est ça qui fait que on ne peut pas les toucher et que beaucoup de fautes, de péchés, on peut dire, sont faits sans qu'il y ait vraiment des répercussions. Moi, jusqu'à maintenant, je ne vois pas de différence ou pas de changement sur ce niveau-là. Il y a des changements. Par exemple, il y a des documents qui disent qu'une victime peut beaucoup plus longtemps que dans beaucoup de pays, pas au Canada, mais par exemple en Belgique et tout ça, peut dénoncer l'abus sexuel. 20 ans après qu'on a 18 ans, tandis qu'avant, c'était simplement 10 ans après qu'on avait 18 ans. Donc, il a quand même dit que c'est un délit grave, ce que ce n'était pas auparavant. Donc, il a sûrement fait quelque chose. Et si on voit les documents aussi, la lettre du pape Jean-Paul II aux évêques des États-Unis, par exemple, ou la lettre que le pape Benoît XVI a écrite aux catholiques d'Irlande, le ton est tout à fait différent. Bien que je ne suis pas avec tout d'accord là, mais on voit quand même que Jean-Paul II, c'est le scandale qu'il faut éviter, tandis qu'avec Benoît XVI, c'est l'abus qui doit se terminer.
Est-ce qu'il y a eu des réactions dans ces milieux suite à ces lettres, par exemple? Est-ce que ça a contribué à une certaine guérison? Est-ce qu'il y a des...
Ben, le problème un peu avec la lettre, c'est que il adresse... Ce sont les laïcs qui doivent faire la pénitence pour commencer. J'ai trouvé ça un peu ironique quand même. Et qui doivent faire le carême et toutes les choses-là. Là, j'ai été choquée un peu. Mon collègue, qui est prêtre et qui travaille dans le tribunal ecclésiastique en Belgique, il lui avait proposé que tous les prêtres portent toute une année les vêtements de, pas de deuil, mais de repentance. Et que les évêques portent des...
La mitre ou la...
La mitre blanche. Qui montre qu'ils sont en situation de pénitence. C'était sa proposition après qu'on avait parlé. Vous savez bien qu'avec la commission Andriansens, en quelques semaines, on avait des centaines et des centaines de dossiers. Lui, il était tellement touché qu'il disait, si quelqu'un doit faire la pénitence, ce sont les prêtres et les évêques. Et ça c'était sa proposition. Lui, qui est prêtre lui-même quand même et qui a parlé avec beaucoup de victimes et beaucoup d'abuseurs aussi. Il trouvait que c'était plutôt là. Donc ça m'a choqué un peu dans la lettre. Et la deuxième chose, c'est que le pape réfère au Vatican II, à une mauvaise interprétation de Vatican II qui serait à l'origine des abus. Je peux pas accepter ça. Le Vatican II a été un très beau concile. Il y a beaucoup des conférences et des études à ce moment-ci. C'est un concile qu'il faut honorer et je pense pas que c'est le concile qui est à l'origine de l'abus sexuel. L'abus, on voit bien dans les chiffres, a commencé dans les années 50. Là, il n'y avait pas encore de Vatican II. C'est vrai que dans les années 70, on a une hausse, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus dû à la situation sur la sexualité dans la société que au Vatican II même. Pour le reste, cette lettre a des choses très très bonnes, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de scandale, il parle de la souffrance des victimes. C'est un pape aussi qui a beaucoup parlé avec les victimes dans plusieurs pays et plusieurs parties du monde, et il continue à faire ça. Et ça, j'ai toujours trouvé très bon, parce que c'est la seule façon de comprendre ce qui s'est passé là.
On réfléchit à la question d'un point de vue pastoral, théologique. Vous avez entendu un grand nombre de victimes durant la commission Adriansen. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui pourrait nous éclairer d'un point de vue pastoral, d'un point de vue de la foi, je dirais, pour... Est-ce que je peux oser dire, nous donner de l'espérance, mais quelle...
Oui, l'espérance, oui, mais quand même après avoir vu les faits. Les faits est que beaucoup de personnes ont perdu leur religion et la foi à cause de l'abus. Il y a eu des recherches, le plus grand nombre perd sa foi. Toutefois, il y en a qui grandissent dans la foi, comme il y a le trauma, si vous connaissez la chose psychologique. Il y a beaucoup de gens qui souffrent du trauma, il y en a aussi qui ont post-traumatic growth, donc qui ont la croissance après avoir travaillé ce trauma. C'est la même chose pour la spiritualité. Il y en a qui ont une spiritualité qui est plus mature. Il y en a aussi qui... on peut pas dire utilise, mais qui, grâce à la religion, ont cette post-traumatic growth, cette croissance. Ce que j'ai vu et ce que je déplore, c'est que jusqu'à maintenant, la plupart dans l'Église étudient surtout les conséquences sur le plan physique et psychologique. Mais moi, je veux, et j'ai dit ça à la conférence ici à l'université de McGill, où restent les questions et les réponses sur le plan théologique et spirituel? Où est-ce que notre spiritualité a été touchée? Moi, je veux une réflexion aussi sur l'ecclésiologie. Je veux aussi une réflexion sur la souffrance, et pas une réflexion facile. Comme vous savez, le Christ a souffert, et vous avez aussi souffert. Ça, c'est trop facile. Bien que le Christ, avec son corps plein de blessures, peut, pour pas mal de victimes, jouer un rôle dans leur processus de guérison. Parce que le Christ aussi, on lui a fait tort à son corps. Il était juste. Il n'était pas coupable. Donc, pour beaucoup de victimes, ça leur dit quelque chose, mais vous ne pouvez pas imposer ça à eux. C'est un chemin qu'ils doivent aller tout seuls. Et ce qu'on a surtout fait dans le christianisme, c'est beaucoup insister sur la souffrance, le sacrifice, mais on oublie pas mal de fois la résurrection. Et la souffrance sans résurrection, c'est pas le christianisme. Et donc, aider les croyants à aller ce chemin, en effet, un peu le chemin que le Christ a fait. Donc, être là, tout simplement, au milieu, le Christ a mis l'enfant au milieu du cercle. Et puis, être blessé injustement, sans être coupable. Et puis, se demander ce que la résurrection pourrait être. Et moi, je trouve très bien, dans ce contexte, c'est ces gens, Marie-Madeleine qui est à la tombe et un Christ qu'elle ne reconnaît pas. Et je pense que c'est ça souvent avec les victimes aussi, qu'ils ne reconnaissent pas le Christ qui pourtant est là.
Écoutez Foi et Turbulence.
Je suis avec le professeur Carlin de Mazure, spécialiste des questions d'abus sexuels, en particulier en Église. Vous avez parlé d'une nécessité pour une réflexion théologique, une réflexion spirituelle sur la question des abus, en ce qui concerne les victimes, en ce qui concerne les abuseurs. Dans la lettre aux catholiques d'Irlande, il est question de péché aussi. Comment est-ce que la question est abordée?
Oui, je trouve la question du péché sexuel une question très intéressante. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au début avec les agresseurs d'enfants dans l'Église? C'est que les évêques dans les États-Unis ont considéré l'abus comme un péché. Donc, comment est-ce qu'on résout un péché? On va à la confession et on pardonne. Et donc, ils ont considéré que, puisque le prêtre avait promis de ne plus retomber dans le péché, ils ont remis ce prêtre, ils l'ont bougé dans une autre diocèse. Parce qu'ils ont considéré cet abus comme un péché. Mais dans beaucoup de cas, il n'y a pas question d'un péché dans ce sens-là, que après une confession, c'est fini. Beaucoup de ces prêtres-là ont besoin d'une thérapie, même si ce ne sont pas des pédophiles fixés. Ils ont besoin d'une thérapie pour savoir comment ils doivent gérer leurs émotions, leurs sentiments, leur sexualité. Comment faire avec le pouvoir qu'ils ont? Comment est-ce qu'on exerce le pouvoir? Qu'est-ce que c'est l'abus de pouvoir? Donc, ils ont besoin d'une thérapie sur plusieurs niveaux. J'ai lu d'un prêtre qui disait que il était pédophile. Il avait pensé, comme la doctrine de la prêtrise dit que c'est un changement ontologique, il avait pensé, après ordination, il serait plus pédophile. Puisque c'est une ordination qui se situe sur le niveau ontologique. Eh bien, donc, on a besoin d'une thérapie, mais pas seulement psychologique, mais même spirituelle et théologique. C'est pour ça que je trouve que c'est très important qu'on réfléchisse sur ces points-là. Et j'ai l'impression que souvent, on ne le fait pas parce qu'on a peur que cette réflexion théologique et spirituelle mène à des changements de structure que beaucoup n'aiment peut-être pas d'être changés. Mais est-ce que c'est un péché sexuel? Moi, je pense que oui, mais pas dans ce sens-là. C'est un péché qui, même selon moi, est lié au péché originel au début de la création. Là, Dieu avait dit, les limites, c'est ça. Tu ne vas pas manger de ces fruits. Et deuxièmement, parce que là, vous allez devenir Dieu. Donc, vous devenez un autre, vous devenez Dieu, ça veut dire vous n'avez pas respecté l'altérité. Qu'est-ce qui se fait dans l'abus sexuel? C'est ne pas respecter l'altérité de cet enfant. On en fait un objet. Donc après tout, moi je dois dire le pape il a raison. C'est un péché sexuel, mais peut-être pas dans l'interprétation que le pape a fait. Mais c'est sûrement que c'est un péché parce qu'on ne respecte pas les limites ni l'altérité de la personne.
Ça demanderait d'être connu, toute cette réflexion. Ça demanderait. C'est ma réaction spontanée à quelque chose d'aussi important, d'aussi majeur. C'est important ce que vous dites au sujet de l'ontologie, de cette théologie du prêtre qui croit que par son ordination, il sera finalement quelqu'un d'autre. Et toute cette dimension d'altérité, de la reconnaissance de l'autre, incommensurable, la différence inaliénable qui est inchangeable. L'autre est quelqu'un qui est différent de moi.
Oui. Mais il y a pas mal d'homosexuels aussi qui ont pensé qu'ils ne seraient plus homosexuels après l'ordination. Hein? Donc, il faudra en effet revoir toute cette théologie de la prêtrise. La formation de la prêtrise est aussi une chose qui devrait être vue. Mais là, on a pas mal travaillé déjà, c'est-à-dire dans le screening des candidats. C'est un point que le pape précédent et même celui-ci, ils insistent beaucoup sur cela. Mais selon moi, c'est pas assez. Le screening, c'est pas assez parce que là, on arrive seulement à qu'on a peu de candidats. Mais selon moi, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut travailler sur la spiritualité et la théologie. Et donc, les choses que je viens vous dire sur le péché originel et le péché sexuel, c'est le début d'une réflexion théologique et bon, il faut continuer sur ce chemin et réfléchir aussi sur la réconciliation, sur la souffrance pense. Quelque chose qui m'a, par exemple, beaucoup touchée, c'est une croyante. Vous m'avez dit, qu'est-ce que ça fait pour les gens victimes sur le plan spirituel? Ben, il y a une femme et elle dit, vous savez, moi, je peux presque pas faire des retraites. Parce que dans une retraite, on demande le silence. Et dès que je me tais, les flashbacks de l'abus me reviennent. Ils m'ont volé la possibilité d'avoir un approfondissement spirituel. Donc, ce sont toutes les choses qu'on n'y pense pas tout de suite, que le silence qui est nécessaire pour se plonger en soi-même et dans le contact avec Dieu, que cette condition nécessaire a été enlevée de beaucoup de victimes d'abus sexuels.
Ça me frappe comme on n'a pas idée, dans le fond, de la gravité, de la profondeur de cette blessure-là.
Oui, l'Église n'a pas encore commencé à penser à cela. Peut-être dans la dernière réunion qu'ils ont eue au Vatican au mois de février en 2012, c'est peut-être la première fois qu'il y a eu des tout petits débuts à ce thème-là.
Ce que vous dites, c'est vraiment comme si on avait volé la vie spirituelle de la personne.
Ah oui.
C'est une trahison, ça peut pas être plus profond.
Oui.
Quand il y a des trahisons à des niveaux personnels, la trahison, elle touche aussi le niveau communautaire, elle touche les communautés qui sont affectées par ça ou qui se retrouvent eux-mêmes à avoir eu un pasteur qu'on a dénoncé. Comment?
Oui, donc quand on regarde les textes de l'Église, on parle surtout de « restoring trust ». Mais c'est beaucoup plus que ça, hein, que la confiance, remettre en place la confiance. La première chose qui se passe dans une communauté quand il y a eu l'abus sexuel par un prêtre, c'est la division de la communauté. Parce qu'il y a tout de suite toute une partie qui ne peut pas le croire. C'est trop grave. Les gens ne peuvent pas digérer ça. Ils disent, mais non, c'est un bon prêtre, il a fait ceci, il a fait cela. Et souvent, c'est vrai. Parce que de beaucoup de prêtres, leur opinion de ce qui est bon et ce qui est mauvais, it's a distortion.
C'est une distorsion.
C'est une distorsion. Parce que qu'est-ce qu'ils pensent, par exemple, un certain nombre de ces prêtres? Ils pensent que Dieu va juger selon ce qui est bon et mauvais. Mais ils voient ça comme une balance. Et donc, à gauche, on met tout ce qui est bon et à droite, on met tout ce qui est mauvais ou l'inverse. Et donc, c'est ce qui va peser le plus qui va faire juger Dieu. Donc, n'importe combien d'abus qu'ils font, s'ils font plus d'œuvres bonnes, disons, ça répare le tout. Évidemment, c'est une opinion qui est tout à fait fautive, mais qui leur sert. Donc, il faut vraiment travailler sur le plan théologique avec ces prêtres qui s'abusent du pouvoir et qui abusent les enfants sur le plan sexuel. Et pas seulement sur leurs opinions sur la sexualité, mais aussi sur des opinions pareil sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, ce prêtre dans cette communauté a sans doute fait plein de bonnes choses parce qu'il veut compenser le mal qu'il fait en cachet. Il vit une double vie. Hein, donc, dans la paroisse, c'est le meilleur de tout. Hein, ils n'ont jamais eu un si bon prêtre, mais en cachet, il abuse. Et donc, on peut dire qu'il a une vie de jour et une vie de nuit. Et donc, ça divise la communauté parce que il y en a qui peuvent vraiment pas le croire et qui prennent les arguments de sa vie de jour comme argument pour dire que non. Quand c'est devenu incontournable, par exemple devant le tribunal, alors à cet instant-là, c'est le colère qui vient de beaucoup de gens. Mais je veux maintenant pas rester sur le plan psychologique parce qu'il y en a pas mal qui font ça. Pour moi, c'est toujours la question, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan théologique et qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Ben, pour beaucoup de gens dans les paroisses, pas tout le monde a une formation théologique, n'est-ce pas? Ils disent, si ça sont les pasteurs de Dieu, on parle de quel Dieu? C'est quel Dieu qui accepte cela, qui est représenté par des gens comme ça? Et donc, ça leur enlève une partie de leur vie spirituelle, ça bouge leur image de Dieu. Souvent, ils ne trouvent pas les ressources pour corriger cette image. Ils ne vont plus à l'église, mais qu'est-ce qu'on a donc fait? On leur a volé les sacrements. Donc, pas seulement l'image de Dieu, pas seulement la vie spirituelle sur le silence et tout ça, mais on leur a même volé les sacrements parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'église parce que c'est seulement trop grave. Et je connais le choc parce que j'ai tellement travaillé dans l'abus sexuel. Je viens à Ottawa, je vais à une église. Après 2 ans, qu'est-ce qu'il y a sur la première page de Ottawa News? Que le prêtre est pédophile. Moi, j'ai dit aussi, OK, moi, je ne vais plus à l'église là. Est-ce qu'on peut nulle part maintenant? Est-ce qu'on peut aller maintenant nulle part sans qu'on trouve des prêtres pédophiles? Je ne veux pas faire tort à tous ceux qui sont des bons prêtres. C'est la majorité. On pense qu'il y a 6% de prêtres qui abusent des enfants. 6%, c'est la même quantité que dans la société. Mais on pense que dans une institution qui dit que c'est eux qui ont les valeurs les plus hautes et qui, aussi sur le plan moral, on espère ou on peut espérer quand même que ça ne se trouve pas dans une si grande quantité, on peut dire, ces abus. Et c'est pour ça que pour beaucoup, beaucoup de chrétiens, l'Église a perdu sa crédibilité sur tout le plan moral. Et pas seulement sur la morale sexuelle, mais aussi sur beaucoup d'autres plans, d'autres points moraux aussi. Et donc, je pense que c'est notre tâche comme laïcs et théologiens de contribuer à restituer la foi dans une église, mais peut-être une église qui est différente, une église qui n'abuse pas le pouvoir et pas la sexualité. Et comme Yvonne Chebara avait dit, elle se demande ça, hein, c'est contre le cléricalisme aussi, elle a écrit une lettre, et elle disait, s'il y aurait eu beaucoup plus de femmes dans l'église, dans les postes responsables, on n'aurait pas eu autant d'abus, et s'il y aurait eu l'abus, la réponse aurait été beaucoup, mais vraiment meilleure. Aurait été meilleur, ça n'aurait pas été déplacer le clergé d'une diocèse à l'autre et tout ça. Donc, je pense qu'on a une tâche à faire. Moi, j'ai pas perdu ma foi, même pas ma foi dans l'Église, mais ça, j'ai vu trop, j'ai entendu trop d'histoires, donc je suis critique à une certaine forme d'église, mais j'ai la foi dans la vraie église. Mais pour ça, la vraie église, comme on a dit aussi au Vatican dans la conférence, le plus important, c'est d'abord la vérité. Et la vérité, c'est même un des 3 mots que le Christ, qu'on dit sur le Christ, hein, il est le chemin, il est la vérité aussi. Et donc, c'est d'abord la vérité avant qu'on peut commencer, je pense, à reconstruire une église qui prend soin des pauvres, des victimes, mais espérons pas de victimes d'église, mais de victimes d'ailleurs, et des gens qui ont été traités injustes. Et je pense que c'est là ce que nous devons faire dans le futur et dans l'avenir.
Un immense merci, Carlène, pour cette réflexion vraie. C'était pas la langue de bois, c'était une réflexion profonde, sérieuse, des questions difficiles, mais auxquelles on est confronté d'une manière ou d'une autre et auxquelles on doit faire face, je crois. Merci.
Voilà, avec plaisir.
Merci infiniment, Madame Caroline de Mazur de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Merci de nous avoir fait partager sa réflexion, ses compétences, son expérience, ses recherches, ses questions sur ce dossier difficile, complexe, à propos duquel il est important que nous soyons mieux informés. Merci également à ma collègue Hélène Champagne qui a animé pour vous cette entrevue. Je vous invite à consulter le site Internet de l'Institut de Pastoral pour des suggestions de lecture en lien avec le thème de l'émission d'aujourd'hui. L'adresse est www.ipastorale.ca. Au microphone, c'est Francine Robert. Je remercie Louis Lesage qui coordonne cette série d'émissions Foi et Turbulence, qui est réalisée avec le soutien technique de la Fondation de la Vidéo Religieuse. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette heure qui se termine. Passez une excellente journée à l'écoute de Radio Ville-Marie.